France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Il était une fois le tas de beaux yeux, tu sais, le père voleur d'étoiles, les yeux dans lesquels on se noie. Bref, vous vous souvenez certainement de ces phrases à l'emporte-pièce, désormais totalement éculées, et heureusement non. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Quels sont les codes pour flirter, draguer, se rencontrer, dater cet été? Ont-ils tellement changé? Bien sûr, MeToo est passé par là. Et 6 ans après, s'assurer du consentement de l'autre, c'est globalement généralisé. Dire oui ou non, sans équivoque possible, fait désormais partie du langage amoureux. Les applis aussi sont venues révolutionner le jeu avec leurs codes. Il y a une science de la phrase d'accroche, me disait une amie ce midi. Le positionnement de ces applis aussi, pour rencontres hétérosexuelles, homosexuels, Bumble, où les femmes ont l'initiative, OK Cupid, plutôt à gauche, droite au cœur, de l'autre côté de l'échiquier, communautaire, de Musematch à J-Date, mais aussi leurs limites, cette recherche d'efficacité qui prime parfois sur le reste, et cette quête de celui ou celle qui coche toutes nos cases, n'est-elle pas vaine en soi, excluante de ce qui pourrait être une jolie rencontre? À moins que l'été, on y revient, ne résolve toutes ces questions en nous projetant dans un ailleurs, loin de notre cadre habituel, du stress du quotidien, dépouillé de nos habitudes sociales parfois et de quelques vêtements au passage. Plus de temps, plus d'audace, plus de liberté, sont-ils les ingrédients du cocktail amoureux de l'été? X, Y, Z, chaque génération a-t-elle ses propres normes? Plus de respect, moins de sexe chez les plus jeunes par rapport à leurs aînés? Ou est-ce beaucoup plus nuancé? Bref, que sont devenus les amours d'été? Et surtout, les codes ont-ils changé? Venez en témoigner. Le numéro, lui, n'a pas varié. 01 45 24 7000, pardon, même chemin par WhatsApp. C'est le téléphone sonne. Vous et vos amours, êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour parler de ce vaste sujet, on accueille tout de suite nos invités. Christine Détré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon, directrice du centre Max Weber, et vous êtes autrice de Crush, fragment du nouveau discours amoureux. C'est paru en 2024 chez Flammarion. Et puis nous sommes également en présence de Camille au Mont-Carnel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Fondatrice de Je m'en bats le clito, c'est en un mot, c'est sur Instagram. Et ça attire 650 000 abonnés. Et vous êtes également l'autrice des mots du cul avec la lettre Q, manifeste joyeux des sexualités, le Robert, les éditions du Robert, c'est paru il y a 2 ans, en 2023. Une première question, je ne sais pas laquelle de vous deux veut s'en emparer. Est-ce que c'est une réalité finalement, ces amours de l'été? Est-ce qu'il y a une spécificité des amours d'été ou plutôt un mythe? Catherine Détré, peut-être pour commencer.
Christine.
Christine, vous m'en avez prévenue.
On en avait présenté juste avant.
Je l'ancre dans ma mémoire.
Alors, est-ce qu'il y a une spécificité des amours d'été? En tout cas, c'est pas récent. Je me disais, il faut absolument que j'arrive à citer Grease. Et quand même, toute l'intrigue de Grease, c'est bien une idylle d'été. Avec la fameuse chanson Summer Night. Et qu'est-ce que devient cette idylle d'été quand on retrouve le quotidien d'un lycée? Donc, c'est pas nouveau. C'est pas non plus... Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que c'est plus nuancé? Alors forcément, la sociologue va dire que oui, c'est toujours plus nuancé que ce qu'on pourrait affirmer d'emblée. C'est pas tous les milieux sociaux, tout le monde ne va pas en vacances, etc. Mais non, c'est pas nouveau, mais bien évidemment, les choses changent, les normes changent, et c'est ça dont il va être intéressant de discuter.
Mais c'est vrai qu'avec été, on pense... Bon, déjà, il y a une question purement hormonale, hein, avec le printemps, ça rejaillit. Il y a aussi l'idée qu'on a peut-être plus d'audace, qu'on sort, je le disais un peu en introduction, qu'on sort de notre cadre habituel et donc on ose plus de choses. Je vois que ça vous inspire, Camille.
Ouais, ça m'inspire et j'ai voulu voir, en fait, j'ai voulu vérifier. Donc j'ai demandé à ces 650 000 personnes hier soir ce que ça leur inspirait, quel était le goût particulier de l'été. Et les réponses sont il est libéré du quotidien et donc nous aussi. Il sent l'après-soleil et les bisous sont salés. Rien n'est impossible, on pleurera en septembre. Tout semble facile, le contexte court et éphémère rend tout beaucoup plus intense. Et pour les ados qui m'ont écrit, c'est souvent les premières fois et les premières toux. On est perdu, mais on a hâte.
C'est vrai que chez les jeunes particulièrement, vous parlez des ados là, il y a cette idée qu'on est un peu ancré dans des codes de famille, la place qu'on a, l'étiquette qu'on nous met, la même chose dans le milieu scolaire. Et donc l'été permet de s'affranchir un peu de tout ça. On ajoute peut-être le fait que les parents sont un peu moins regardants l'été parce qu'ils ont eux-mêmes envie de profiter de leurs vacances. Je vois que vous hochez la tête, Christine Détré.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le moment où on peut imaginer ou avoir envie que les contraintes se desserrent. Et donc, vous le disiez, bah, les parents sont peut-être un peu moins là, les horaires sont moins contraignants. Les ados, leur journée, leur emploi du temps sont hyper contraints, très remplis. On leur demande beaucoup de choses, en fait, aux adolescentes et aux adolescents d'aujourd'hui, entre l'école et puis pour certains, certaines, les activités extrascolaires, etc. Et là, l'été, effectivement, il peut y avoir cette impression et cette envie de relâcher un petit peu cette pression.
Malgré tout, dans ce que vous receviez comme réponse, Camille au Montcarnel, il y a cette idée de l'éphémère quand même. On verra bien en septembre. C'est vrai qu'on associe forcément l'amour d'été à quelque chose de cadré dans le temps. Et peut-être que d'ailleurs, la rupture est intégrée avant même que ça ne commence. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça?
Ça dépend des histoires.
Ah, vous êtes plus optimiste que ça.
J'espère qu'il y a des personnes qui se rencontrent l'été et ça continue. Je dirais plutôt que le cadre rend tout beaucoup plus hâtif. C'est-à-dire qu'on a vite envie de se dire de quoi est-ce que cette histoire va être faite. On a vite envie de se dire mais en fait, toi, t'attends quoi de cette histoire? Parce que justement, on sait que pour le coup, les jours sont vraiment comptés. Ça n'empêche qu'il y a plein d'histoires.
Ça rend peut-être la chose plus vraie, pardon?
Ça rend l'intention et l'expression de l'intention beaucoup plus vraie et beaucoup plus sincère. C'est-à-dire qu'on a moins le temps de faire genre et on a moins le temps de rentrer dans cette espèce de norme du flirt d'été qui se doit léger, qui se doit un petit peu flou, qui se doit un petit peu implicite parce que justement, et en fait on parle de 2 mois, mais il y a certaines personnes qui d'un seul coup, en fait, il s'avère que notre crush part dans 2 jours, il s'avère que nous on change de localisation dans 24 heures. Donc pour le coup, il y a cette notion du temps qui fait que dans l'intention et dans l'expression de l'intention, et ça va revenir à tout ce qu'on va dire avec le consentement, avec quid de la partie de responsabilité émotionnelle dans le lien, etc. Ça fait qu'on a moins le temps de faire genre. Et pour le coup, moi, 100% des personnes avec qui je parle me disent que c'est plutôt bénéfique.
Alors, parce que j'avais la question corollaire de ça, on a moins le temps. Est-ce que, Christine Détré, il n'y a peut-être pas le risque de se dire qu'on s'écoute un peu moins aussi dans le fait de vouloir prendre le temps, justement, d'une relation dans ces amours d'été, parce qu'il y a un besoin d'être efficace, en fait?
Oui, alors je voulais revenir sur ce que vous disiez juste avant, en disant on espère que ça va durer. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer, et c'est aussi le moment.
C'est très bien comme ça parfois.
Voilà, et c'est très bien comme ça. Et la dernière enquête de grande ampleur sur la sexualité des jeunes a montré qu'il y a beaucoup plus de relations aujourd'hui que les relations qu'on imaginait de notre temps, au siècle dernier, qui étaient très, très sur la norme conjugale, etc. Il y a tout un éventail qui s'est déployé. Et l'amour d'été fait partie aussi de ces choses qui n'ont peut-être pas toujours vocation à durer. C'est finalement l'exception qui fait que ça dure. Moi aussi, j'ai rencontré une collègue et je racontais qu'on allait parler de ça et elle me disait « Ah, mais moi, tu sais, je suis mariée avec mon amour d'été, en fait, avec mon crush d'été, même si à l'époque, elle disait pas crush. » Donc, ça peut arriver, mais je pense que...
Qu'elle nous appelle si elle nous entend, voilà. On l'accueillera avec plaisir.
Mais souvent, c'est pas fait pour, quelque part. Et sur ce que vous disiez, effectivement, l'efficacité, etc., je pense qu'il y a aussi vraiment cette notion d'expérimentation, puis peut-être aussi d'essayer d'être quelqu'un d'autre, quelque part. Enfin, le mythe qu'on a quand on est ado, à la prochaine rentrée, je vais m'habiller autrement, je vais avoir tel autre style, etc. Là, il y a aussi ce moment un peu déplacé, alors surtout si on est en vacances ailleurs, où on peut jouer aussi, vraiment avoir un jeu, en fait, sur...
Voir expérimenter et se trouver peut-être un peu mieux pour la prochaine rentrée, justement, voilà. Puisqu'on en parle. Alors, effectivement, pour qu'il y ait amour d'été, il faut qu'il y ait le moment de la rencontre. Comment se passe-t-il? Où se passe-t-il? J'ai l'impression, en préparant cette émission, qu'effectivement, autant les lieux de l'été existent toujours, la plage, le bar, etc. Malgré tout, les applis sont forcément venues aussi entrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'elles viennent aussi percuter dans la rencontre. Comment elle se passe, cette rencontre d'été? Est-ce qu'elle change d'habitude, finalement? Ou est-ce qu'on utilise les mêmes codes et les mêmes phrases d'approche, comme j'en citais certaines, Camille au Montcarnel?
Les phrases d'accroche à absolument travailler, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Cet été. On fait un effort. j'ai pas l'impression que les rencontres soient très différentes dans la façon dont on se rencontre. J'ai plutôt l'impression que les réseaux sociaux restent, notamment pour les jeunes, un grand espace de rencontre, que les algorithmes de TikTok et Instagram jouent aussi beaucoup, que sur Instagram, on est beaucoup sur une drague qui va être beaucoup plus frontale avec l'utilisation des emojis, on va réagir avec des flammes, on va commenter des stories et des photos. Sur TikTok, on va être sur une forme de projection du romantisme avec toute une trend où on dit voici comment ça se passerait si j'avais une copine, voici la playlist que je te ferais, voici les petits plats, voici comment je t'emmènerais faire du vélo dans les routes avec du blé. Et donc, C'est des façons de faire différentes. Je sais que les applications de rencontres jouent beaucoup, notamment aujourd'hui avec tout un tas de fonctionnalités qui nous permettent de délocaliser la localisation de, par exemple, on est à Paris, on sait qu'on va être en Italie dans deux semaines, on peut délocaliser la localisation de son application de rencontre, justement avec cette contrainte du temps, mais aussi pour potentiellement commencer à prendre un petit peu d'avance. Donc, les applications de rencontres, bien évidemment, mais aussi la vie. C'est-à-dire que les vacances, on sort, on va à la plage, c'est-à-dire qu'on va boire des coups. Et ça, ça reste aussi des vrais moments de rencontre qui font aussi partie du jeu. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc où on se dit, on va s'habiller, à ton avis, est-ce que j'ai vu que telle terrasse, il y avait quand même plutôt des beaux mecs, est-ce qu'on n'irait pas plutôt là qu'à côté parce qu'il n'y a personne? Et on joue aussi de ça.
Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Catherine Christine Détré, je vais y arriver, je vous l'avais promis en plus. La perméabilité entre le lieu de vie, la terrasse au beau mec, et l'application qui est venue changer un peu la donne. Les deux sont complètement liés,
en fait. Oui, c'est vraiment important de le souligner, de souligner à la fois qu'effectivement, les applis de rencontre, elles n'ont pas supprimé tous les autres lieux de rencontre, parce qu'on a parfois des sortes de... Enfin voilà, quand on est parents, adultes, avec cet univers qu'on ne connaît pas forcément, parfois on peut tomber dans un peu une panique morale. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Etc. Bon, déjà, la plupart, en fait, l'appli de rencontre, elle demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, pour, au bout du compte, beaucoup moins de rencontres, et puis si on continue, très peu d'activités sexuelles. Enfin, voilà, proportionnellement à toute l'énergie en fait qui y est passée. Donc déjà, ça permet de voilà.
Finalement,
de...
c'est bien plus compliqué que le bar ou la discothèque à l'ancienne.
Enfin, en tout cas, ça demande vraiment un investissement très fort. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de dating, de dating fatigue, etc. Et c'est tout cet investissement moral qui finalement aboutit pas toujours à grand chose, entre guillemets, sauf que là aussi, hein, discuter, etc., ça peut être le but d'aller sur l'appli de rencontre. Mais je pense que c'est extrêmement important aussi ce que vous disiez, Camille, de dire voilà, le numérique, c'est pas que l'appli de rencontre, c'est aussi Instagram, c'est aussi TikTok, et sur ces réseaux-là, qui sont pas des applications, ben on discute, et il y a toute une des relations qui se tissent, que ça soit de la discussion. Vous avez par exemple des ados qui vont vous dire, je suis en couple, et ils ont jamais rencontré, en vrai, la personne, en fait.
En fait, la discussion passe beaucoup par l'écrit, notamment la première accroche, justement. Certains ados, notamment, je ne sais pas si c'est que les ados, mais reconnaissent se servir de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour pouvoir imaginer leur première phrase. Est-ce que c'est mieux que t'as de beaux yeux, tu sais, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a cette prégnance, Camille Aumont-Carnel, de l'écrit qu'il n'y avait peut-être pas il y a encore quelques années.
Ouais, il y a même des ados, moi, qui m'ont dit qu'ils revenaient au mail. Je spoil. Et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais les mails, en général, les ados qui ont des contrôles parentaux sur leur téléphone, les parents ne regardent jamais les mails.
Avis aux amateurs.
Et donc, j'ai des ados qui reviennent aux mails pour l'écrit, j'ai des ados qui utilisent des notes. Parce qu'en fait, sur nos iPhones, il y a des notes et on peut se les partager. Mmh. Et donc, chacun répond en dessous, ce qui fait qu'on échappe aussi au contrôle parental. Donc,
mais qu'est-ce que ça dit, ce retour à l'écrit? Est-ce que c'est parce que ça rassure un peu d'être moins dans l'immédiateté? On peut réfléchir à sa réponse, à quel emoji justement on met, etc.
Alors, ça, on peut réfléchir
ça permet
à
ça.
Ça permet ça, ça permet aussi d'avoir un historique. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'ados qui me disent, mais moi, j'adore me replonger dans les messages et me dire, mais en fait, il m'a dit si. Et puis, il y a aussi aujourd'hui toute cette suranalyse absolue de l'écrit.
Oui, parce que qui dit historique dit surinterprétation d'absolument le moindre trois petits points.
Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il s'en fout? Est-ce que là, les trois petits points, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il veut pas du tout me revoir, mais il ose pas me le dire? Est-ce que là, le point d'exclamation, en fait, la personne est quand même très vénère là. C'est-à-dire que. Et ça, très sincèrement, ça va de 15 ans à 80 ans. Il n'y a pas d'histoire d'âge là-dessus. Mais l'écrit permet de prendre le temps, l'écrit permet de se replonger quand on n'a pas forcément accès à l'autre, l'écrit permet aussi de fantasmer, l'écrit permet aussi d'avoir une preuve pour pouvoir montrer à un tiers et avoir justement cet avis sur ce qu'on est en train de vivre qui est hyper important quand on est ado et même pas forcément ado. Et par rapport au téléphone, l'écrit permet de se cacher. C'est-à-dire que justement, on peut être dans une forme de flou de l'intention, on peut être dans une forme de subtilité. Là où, quand on passe le cap du téléphone, on a l'impression qu'on est déjà dans autre chose. Et il y a cette forme aussi de temporalité où, step by step, c'est d'abord, on s'écrit sur les réseaux sociaux. Ok, donc ensuite, on peut avoir le numéro de téléphone. Donc ensuite, on peut peut-être passer à des notes vocales. Ok, ensuite, on peut. Et il y a aussi tout ce rapport au process et on se rassure en se disant que ça avance parce qu'on passe des étapes.
Je vous propose qu'on accueille Samuel qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Samuel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Expérimenté un petit peu des relations, enfin un flirt il y a quelques années, c'est dans un village vacances, c'est Cap France, c'est-à-dire c'est un lieu où plusieurs familles se rencontrent, etc. Il y a des visites organisées, enfin bon, bref. Et bon, j'ai rencontré quelqu'un et on est venu sympathiser. Bon, bref, on s'est revus une ou deux fois. Elle habitait en Seine-Saint-Denis, moi à Paris. Bon, c'était compliqué de se voir parce que c'est compliqué les transports, mais je pense que quand on grandit, bon, j'avais 16 ans à l'époque, mais quand je pense que si je devais le refaire aujourd'hui, ça serait d'autant plus simple parce que on a les moyens de communication. Bon, j'ai le permis de conduire, les transports en commun, etc. Plus de contrôle parental au sens large, hein, pas uniquement sur le téléphone. Et je pense que si on est vraiment, je trouve ça dommage parce que si on s'entend vraiment bien avec la personne, s'il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, c'est dommage de tuer de tuer la relation dans l'œuf entre guillemets.
Simplement parce que c'est une relation d'été, quoi.
En se donnant pas en se donnant pas les moyens justement d'approfondir et quitte à se dire, bah en fait, on a testé ce que ça donne dans la vie courante et c'est incompatible avec nos emplois du temps, etc. Mais on pourrait très bien se dire, bon, bah, même si la personne habite à Lille et que l'autre à Lyon, bon, bah, on a un coup de TGV en 3-4 heures, on peut très bien se voir un week-end 2-3 fois par mois, bon, suivant bien sûr les budgets de chacun. Mm-hmm. Mais je pense que généralement, c'est aussi malheureusement symptomatique de notre société actuelle, c'est qu'on se donne plus vraiment les moyens. Dès que c'est un petit peu compliqué, on abandonne. Et je pense que c'est presque méprisant par rapport à une potentielle relation naissante qui a somme toute pu potentiellement être
perdurer au moins un petit peu.
Voilà,
oui.
Non, mais qui a pu être vive en émotions, riche en émotions et voilà. Et pourquoi? Parce que, enfin, généralement, les couples, quand ils se rencontrent, ils peuvent se rencontrer dans les croisières, les soirées. Pourquoi est-ce que ça aboutirait plus en soirée qu'en vacances? Pourtant, on est bien, on est hors travail, on se rencontre jamais au travail. Mm-hmm. Donc, c'est forcément, on est toujours, quand on rencontre quelqu'un, on est toujours potentiellement en loisir, si vous voulez. Alors, pourquoi les vacances, le 4 juillet des vacances, c'est tout le temps échouer les relations statistiquement et pas rencontrer quelqu'un en soirée ou à un mariage, vous voyez?
Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Samuel. Je vois que nos deux invités ont envie de répondre sur cette question. Vous les avez inspirés. Christine Détré, effectivement, c'est pas forcément éphémère et on peut se donner les moyens que ça perdure.
Oui, oui, tout à fait. Et on se rencontre beaucoup au travail, en fait. Hein, voilà. Statistiquement, c'est justement au travail ou pendant les études qu'on rencontre souvent son partenaire. Je suis pas sûre que les générations d'aujourd'hui fassent moins d'efforts justement sur les relations à distance entre guillemets, puisque justement, alors à la fois les périodes étudiantes et studentines, ben on est souvent amené à partir. Et moi, je suis étonnée. J'avais un étudiant qui avait fait son mémoire là-dessus sur les relations qui perdurent malgré le fait que l'un des deux ou l'une des deux est parti 6 mois, 1 an à l'étranger, et ça continue. Et les réseaux sociaux, donc c'est voilà, les réseaux sociaux qui peuvent être la pire et la meilleure des choses, ben, permettent
ça,
aussi
bien
ça.
Sûr. Alors, bien la facilitation de maintenir le lien.
Avec cette immédiateté dont on parlait et peut-être le fait de ne plus envoyer des lettres, etc. Et tout à l'heure, pour l'immédiateté, je pensais aussi au fameux « vu ». Voilà, quand il m'a mis un « vu ». Et là, on sait que l'autre a relevé le message, a lu le message et il a
c'est
pas répondu.
C'est quand les deux petites, notamment sur WhatsApp, par exemple, quand les petites coches bleues
désactiver
apparaissent.
Pour votre santé mentale, désactiver cet outil,
mais tout ça, voilà, tout ça, c'est interprété. Mais tous les moyens technologiques d'aujourd'hui permettent justement que bah voilà, y a la communication puisse continuer même au-delà des lettres. Donc, bien évidemment, les amours d'été ne sont pas fatalement condamnés.
Camille Aumont-Carnel.
Ouais, pour rebondir sur le témoignage et ce que vous disiez, dans les 6 tendances dating de 2025 de Bumble, il y en a une que je trouve hyper intéressante qui s'appelle le future proofing, qui est en fait des rencontres qui sont tournées vers l'avenir et la responsabilité émotionnelle. On se rend compte qu'il y a quand même 72% des célibataires qui recherchent activement une relation durable et 59 qui valorisent la stabilité émotionnelle. Et donc, ça veut dire que tout du long de la relation, qu'elle dure 15 jours, qu'elle dure 1 jour, 24 heures ou 6 mois, il y a cette volonté de faire un état des lieux sur, en fait, t'envisages comment la suite, et toi, tu vis ça comment, et comment est-ce que tu te sens d'avancer ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être redouté, je pense, par des générations plutôt précédentes, mais qui aujourd'hui fait vraiment partie d'un socle de communication sur, oui, ce qu'on ressent, mais aussi la façon dont on a envie de se projeter. Et donc moi, ce que je vois chez les jeunes générations, c'est aussi beaucoup plus de responsabilité émotionnelle à la fin, au début des vacances, pendant le flirt, à la fin du flirt, de se dire, ok, on fait comment pour la suite ? Et pour beaucoup, ça peut finir par un, bah écoute, on l'attente, on voit comment ça se passe. Donc ça fait partie aujourd'hui des choses qui sont conscientes et qui font partie du cœur de la façon dont les jeunes aussi gèrent leurs relations, même pendant l'été.
Sur l'idée de ces codes ont changé, effectivement, Christine Détré, il y a cette idée qu'on nomme plus les choses, peut-être on communique plus, oui. Parce qu'on s'est tous un jour posé la question de où en est l'autre, est-ce qu'il perçoit les choses comme moi, est-ce que, etc. Peut-être que ça, c'est en train de changer.
Oui, oui, tout à fait. Et ça apparaît vraiment de toutes les enquêtes actuelles sur la jeunesse contemporaine, les ados contemporains. C'est à la fois, là, j'en parlais tout à l'heure, la grande variété, beaucoup plus ouverte des situations, les situationships, voilà, les situations possibles, les mots aussi, le vocabulaire. Enfin, quand j'ai travaillé sur le crush, c'était justement prendre le crush comme un des exemples de ces nouveaux mots qui apparaissent parce que bah, la relation n'existait peut-être pas, ce genre de relation n'existait peut-être pas aujourd'hui. Donc voilà, les mots montrent bien que c'est... On pourrait dire, bon, c'est juste les jeunes, ils ont besoin d'avoir le langage à la mode, de se démarquer des parents, mais vraiment non, c'est vraiment l'idée que y a des nouveaux mots parce qu'il y a des nouvelles façons de relationner. Et ce qui apparaît aussi très fort, c'est ce que vous disiez, en fait, c'est cette nécessité, ce besoin d'en parler, en fait, de poser, avoir des mots, c'est aussi poser les mots. Et poser les mots sur les choses, bah, c'est en discuter ensemble et être d'accord, alors voilà, dans le meilleur des cas, sur ce que vous disiez, où on en est, où ça va, etc.
Est-ce qu'on peut voir ça comme un corollaire, peut-être Camille Aumont-Carnel, de la vague MeToo aussi, c'est-à-dire qu'on a appris à nommer, à dire oui, à dire non, à avoir moins d'équivoques sur moins de flou finalement et que du coup bon, on va aussi jusqu'à nommer la relation. Est-ce que l'un va avec l'autre?
Oui, je pense que tout ce qu'on a pu démystifier, déterminer, définir autour de ce grand mot qu'est le consentement est venu infuser aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on a eu un besoin de cristalliser autour du consentement plutôt à travers le biais des relations sexuelles et notamment des violences sexuelles. Mais là, 7 ans après MeToo, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait on commence à comprendre que le consentement il est partout. Et que le consentement, c'est aussi dans la façon dont on va relationner avec l'autre, que le consentement, c'est aussi dans la façon dont on va envisager de communiquer, on va envisager de s'organiser, que c'est au travail, que c'est dans nos amitiés. Et donc forcément, ça arrive aussi. On sort de la dimension traumatique de cette vision du consentement et on commence à l'intégrer justement pour ne plus qu'on ait de violence, pour qu'on n'ait plus d'harcèlement, d'agression. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant et c'est ça qui fait du bien quand on prend de la hauteur 7 ans après MeToo et qu'on se pose la question, est-ce que les choses ont changé ? Oui, absolument. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs 92% des jeunes des 18-24 ans qui estiment que le consentement est essentiel pour avoir une relation saine. Donc ça fait vraiment partie aujourd'hui presque du béaba. Il y a une différence entre ce qu'on comprend du consentement et aujourd'hui la façon dont on est en capacité de l'appliquer quotidiennement. Ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui est connu et qui est intégré.
Alors, nos auditeurs nous rappellent qu'il n'y a pas que les ados sur Terre. Je vous donne quelques exemples. Fabrice qui nous écrit par mail, vous semblez vous intéresser principalement aux amours adolescents, mais quid des vieux comme nous?
Et puis Karine, on est là, Fabrice,
qui dit, mon mari est mon grand amour, rencontré à la mer en été il y a 31 ans.
Okay,
nous sommes toujours aussi bien ensemble avec nos ados de 12 et 16 ans. Merci la vie. Et puis je vous propose qu'on accueille Guy qui nous appelle. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, bienvenue à l'antenne de France Inter.
Eh ben moi j'écoutais votre émission là et j'étais surpris de voir qu'on ramenait toujours les amours d'été aux ados, mais les amours d'été c'est pas forcément qu'aux ados. Les amours c'est pas qu'à l'adolescent, il y a même les personnes âgées comme moi ont des besoins de rencontres, pas forcément plus, mais de rencontres pour pouvoir parler. Et donc le fait de moi quand je suis en vacances en Bretagne ou autre, ça me plaît de discuter avec les gens, les femmes en particulier, et comme ça, simplement.
Et est-ce que pour vous, l'été est un moment qui est plus propice à ça, justement ?
Oui, je pense, oui. Je pense que l'été, avec la chaleur et tout, la période est plutôt gaie parce que les gens sont en vacances et donc automatiquement, ils sont plus gays, ils ont plus d'ouverture. Et donc, je pense que la période est plus ouverte à ça, oui.
Merci beaucoup Guy pour votre témoignage. Christine Détré, effectivement, il n'y a pas que les jeunes et
non,
on a bien le droit aux amours d'été, quel que soit l'âge.
Oui, heureusement. Et alors ça, c'est peut-être le travers des sociologues qui ont toujours peur de se hasarder au-delà des enquêtes qu'ils ou elles ont faites. Donc effectivement, moi j'ai travaillé sur les ados, donc je parle beaucoup des ados. Mais heureusement, puis heureusement pour nous autour de la table, effectivement, que les amours ne s'arrêtent pas à l'adolescence. Oui, bien évidemment.
Camille Aumont-Carnel, vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Évidemment que je suis d'accord,
aussi.
Je voulais vraiment parler parler vexée, hein. C'est juste que moi j'ai 28 ans, je parle essentiellement avec des cool kids de 15 ans et de 18 ans, mais bien évidemment, l'amour n'a pas d'âge, le flirt non plus, se rouler des pelles dans des calanques à Marseille non plus, donc voilà, pas de sujet.
Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir à quel point ce qui arrive dans les nouvelles générations infuse aussi dans les générations d'après. Effectivement, on parlait de la vague MeToo, on parlait des nouveaux codes un peu des relations, ça ne s'arrête pas aux 18-25 ans pour parler clairement.
Non, et puis d'ailleurs, il y a un outil très clair pour le mesurer qui sont les applications de rencontre avec justement cette espèce de curseur pour l'âge où ça peut aller jusqu'à 100 ans quoi. Donc, non, mais c'est vrai. Donc pour le coup, ça veut aussi dire que c'est des outils qui sont utilisés par des personnes qui ont 50, 60, 70 ans, mais pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire ce besoin de socialiser avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées. Et moi j'ai souvent tendance à le dire, les applications de rencontre, je pense que toutes les expériences assez négatives viennent du fait qu'on les considère vraiment comme des applications de rencontre. Moi je dis toujours non, c'est des accélérateurs de rencontre, c'est-à-dire que ça nous permet de rencontrer plus facilement plus de personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées entre le marché où on achète des poireaux et la terrine de chez Gégé. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut les utiliser. Et je trouve que pour tout ce sentiment d'isolement que peuvent ressentir des personnes peut-être un peu plus âgées, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui partaient en date, qui se sont rendues compte que ça n'allait pas marcher, mais qui sont restées amies. Quoi.
Oui, voilà.
France Inter. Le téléphone sonne.
Vous êtes au téléphone sonne, nous sommes en compagnie de Christine Détré et de Camille Aumont-Carnel. On parle des amours d'été et de tout ce que ça vous inspire. Et on accueille Pauline. Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, soyez la bienvenue.
Merci. Alors moi, la réflexion que je me suis faite en écoutant cette émission, pardon, je suis un peu émue de passer à la radio.
Allez-y, prenez votre temps.
C'était la difficulté que je rencontre de manière générale, hein, pas forcément en été, mais à rencontrer des gens et à aller parler à des personnes dans la rue qu'on connaît pas forcément. Et notamment là, tout récemment, au moment du 14 juillet, on était donc avec ma famille pour aller voir le feu d'artifice. Et il y avait une personne qui avait une très jolie robe. Donc je me suis approchée de cette dame pour lui dire qu'elle avait une jolie robe, tout simplement. Et en fait, j'ai ressenti un froid, enfin un regard très inquiété de cette dame qui avait un peu peur de savoir qu'est-ce que venait faire cette jeune fille à lui parler alors qu'elle était avec elle-même, avec sa famille. Mmh. Et donc, c'était cette idée-là. En vacances, en général, on part avec ses amis, avec sa famille. Et donc, on n'est pas forcément ouvert à aller voir les autres, ou alors on est un peu, voilà, un peu replié sur soi, et peut-être que ça vient depuis la période Covid où on a eu peur de se contaminer entre nous. Mm-hmm. Et cette peur, elle est presque restée ancrée.
Avec un repli sur soi, quoi, finalement. C'est comme ça que voilà. Vous le vivez. Mmh. Merci beaucoup pour votre témoignage, Pauline, Christine Détré. Effectivement, peut-être cette tendance au repli sur soi et effectivement le corollaire aussi des applis où c'est, ça permet de rompre une certaine forme de timidité ou de difficulté à aller vers l'autre.
Oui, tout à fait. Alors le repli sur soi, il est aussi dans la façon dont on est éduqué, dont on est socialisé. Et je ne suis pas non plus certaine que ça date que du Covid. Alors vous avez sans doute raison que le Covid a peut-être... accentuer cette prudence en tout cas qu'on peut avoir, mais on est élevé en fait depuis qu'on est tout petit à pas forcément aller parler à quelqu'un.
Ça dépend quand même des lieux, finalement.
Oui, mais regardons comment chacun et chacune se comporte dans un ascenseur où on est chacun à regarder ses pieds, à pas oser croiser, à se dire pourvu je croise pas le regard de l'autre personne parce que je vais lui parler. Et je trouve que votre exemple, madame, il est tout à fait intéressant, parce que même le compliment, où on pourrait dire le compliment, c'est quelque chose d'ouvert, de joyeux, de... le compliment, on peut avoir de la personne à qui on va s'adresser à une forme de recul.
Parce qu'on a l'impression qu'on vient nous demander quelque chose,
et
non?
Oui, et on n'est pas habitué non plus à parler aux gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ne parle pas aux gens que tu ne connais pas. C'est quand même quelque chose qu'on dit et qu'on inculque aux enfants. Donc on est élevé aussi avec ça.
Camille Aumont-Carnel?
Ouais, et puis on n'est surtout pas élevé et on n'est pas forcément sensibilisé à se dire que parfois il y a des situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise et qu'en fait, il ne faut pas aller au-delà du fait que juste c'était pas hyper aisé et on n'était pas forcément à l'aise, mais que c'est aussi ok. Et qu'on peut aller faire un compliment à quelqu'un ou à quelqu'une et se dire que on n'a pas forcément eu la réponse qu'on voulait, on n'a pas forcément eu la réaction qu'on voulait, et que c'était peut-être un moment malaisant, mais qu'il ne faut peut-être pas aller au-delà de ça et se dire que ça réarrivera à d'autres moments et que c'est ok de vivre un moment gênant.
Mais pourtant, vous jouez beaucoup de ça dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous, on le voit sur vos vidéos sur Instagram, vous allez bousculer les codes, vous allez avec une grosse pancarte en disant...
Moi, j'adore la gênance.
Voilà, est-ce que vous voulez être mon plan cul? C'est ce que vous faites, in fine.
Ça marche très bien, d'ailleurs.
Voilà, c'était ma question. Comment vous... Qu'est-ce que ça suscite? Est-ce que... Parce que, évidemment, vos vidéos sont montées, c'est bien normal, mais est-ce que ça suscite plus de gêne? Est-ce que ça suscite de la curiosité? Au contraire, une ouverture? Comment le perçoivent les gens, en général?
Alors, ce qui est déjà super, c'est que ça ne suscite jamais de violence et d'énervement. Première réponse. Ensuite, ça suscite essentiellement de la gêne, mais pas du fait que je sois dans la rue avec une pancarte qui est un appel à l'action, mais du fait que de la nature de ce qui est écrit sur ma pancarte. Mais très vite, ça fait qu'automatiquement, on a envie de parler. Et donc, on a une réaction. Et le début de tout, c'est une réaction. C'est pour ça que moi, je mets au même niveau une personne qui regarde ses pieds et dans l'ascenseur après qu'on lui ait fait un compliment et une personne qui explose de rire. Pour moi, c'est une réaction. Ça vient casser un truc un peu gênant et derrière, on peut communiquer. Donc, moi, j'ai de tout. J'ai des personnes qui viennent vraiment me dire « Mais je peux vraiment postuler au plan cul ?» Et des personnes qui, trop mignonnes, des mamies, elles étaient trois à rue de Rivoli, et elles me disent « Mais c'est quoi un plan cul ?» Et donc, je me suis retrouvée à essayer de pitcher le concept. Elles étaient là « C'est pas mal, hein, franchement, Janine, le plan cul !» Et j'étais là « Ouais, mesdames, vous devriez essayer. » Moi, j'aime toute situation qui me permet de créer du lien, d'aborder à travers un espèce de brise-glace des thématiques qu'on n'aborde jamais. C'est faire en sorte que les gens posent des questions, c'est faire en sorte que les gens viennent me voir et se dire que même dans un espace public, et donc moi c'est la rue, mais c'est aussi la terrasse de café, le supermarché, l'ascenseur, la rue du 14 juillet, on peut commencer par de la gêne et ça peut mener vers autre chose.
Olivier nous appelle de Tours. Bonsoir Olivier.
Bonsoir les filles ou mesdames.
On vous écoute.
Et bonsoir les auditeurs. J'appelle donc pour parler, au départ, moi je sors depuis 94 avec ma femme, c'est la sœur de mon meilleur pote. On est sortis l'été, juillet, en août elle partait un mois en Espagne. Et ça a tenu.
C'était pas gagné.
Voilà, c'est ça. Et donc, 31 ans plus tard, on a donc une fille de 20 et de 16. Et vous parliez du vocabulaire qui a changé tout à l'heure. Et j'essaye de faire vite, pardon pour le débit.
Pas de problème, donc, prenez votre temps.
Ok, les filles, maintenant, en fait, disent pas « je sors avec quelqu'un ». En fait, elles sont en couple. Et ça, c'est genre, elles ont même pas encore embrassé le copain et tout. Bon, elles sont ceinture noire, comme je disais, de consentement à la maison. Et donc, je leur dis, mais non, mais ça, c'est sortir ensemble. En couple, c'est quand tu vis avec la personne. Elle fait, non. Le bon pour tout le monde, c'est comme dans Facebook, c'est on est en couple. Et ça, c'est quand elle sort avec quelqu'un. Il y a le crush. Mais ça, c'est je suis en couple avec quelqu'un où je sais que ça ne durera pas, par exemple. Voilà. Et donc, on a changé à la maison le vocabulaire parce qu'on n'était pas en accord, du coup, sur le sens, mais on a compris. Et donc, pour eux, c'est plus important que pour nous l'engagement, je trouve. Là, son gars est parti 3 semaines aux États-Unis et vous parliez des réseaux sociaux et c'est vrai que ça aide à maintenir... En fait, un climat pour rester ensemble, en fait, pour faire durer les choses. Et donc, je disais, son gars, il ne me battra jamais. Parce que, comme je disais à la régie, moi, ma femme, donc, à 17 ans, elle est partie aux États-Unis en périple. Et ayant, en fait, l'itinéraire, j'ai fait livrer des roses dans un hôtel où elle débarquait pour la première fois de sa vie aux États-Unis. Et à l'accueil, quand elle est arrivée, il y avait un bouquet de roses qui l'attendait de ma part.
Bravo, très beau geste romantique. On comprend pourquoi ça a duré finalement. Vous inspirez là des bravos dans tout le studio. Christine Détré, effectivement, le vocabulaire a changé, mais ce qu'il y a derrière le vocabulaire, peut-être pas forcément.
Oui, et je trouve ça très intéressant ce que vous racontez, parce que ça montre aussi, et ça aussi c'est récurrent dans les enquêtes, en fait, c'est l'importance de la norme conjugale toujours. Alors, même si derrière, être en couple ne veut pas forcément dire la même chose aujourd'hui qu'au siècle dernier, ou ce qu'on a pu vivre dans les générations précédentes, n'empêche que ça montre bien que le terme, le mot et l'idée d'être en couple, c'est pas du tout quelque chose qui est ringard, qui est dévalorisé, etc. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, parce que voilà, parfois on peut tomber dans des discours, quand je parlais tout à l'heure de panique morale, on peut tomber dans des discours disant, voilà, le romantisme est fini, etc., etc., et pas du tout. Mais Voilà, espérons que ça sera un romantisme réfléchi, déconstruit, pensé, etc. Et je trouve aussi très bien, enfin très bien, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, mais je suis assez admirative du coup du degré de dialogue que vous semblez avoir avec vos filles. Et ça, je trouve que c'est aussi très utile et très important.
Camille Aumont-Carnel, pardon, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Il y a être en couple, il y a c'est mon gars, c'est ma go, il y a des bails, on se tchatche, c'est mon pain. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'apprends des nouveaux
mots.
Alors,
c'est mon pain. Sachez que je l'ai appris cette semaine en préparant l'émission. Je ne connaissais pas. Je
c'est
confesse.
Mon pain. Et on dit, terme. Ça, c'est ton pain, genre ton pain, pain. Et donc, il y a plein de mots, mais qui font aussi partie de leur vocabulaire quotidien et qu'il faut vraiment, je pense, apprendre à décrypter. Mais dans le simple besoin de comprendre aussi ce qu'ils traversent.
Malgré tout, parce que il y a les mots, c'est ce que je disais, il y a les mots et il y a la réalité. Vous parliez, Catherine Détré, du Christine Détré, non mais
on y arrive.
C'est la fin de l'émission, du fait de que le couple reste la norme finalement. Malgré tout, il y a aussi l'idée pour notamment les jeunes générations de pouvoir assumer, indiquer qu'ils sont soit dans une relation plus ouverte, la relation polyamoureuse, les différentes, ce qu'on souhaite. Les applis font beaucoup ça aussi, puisqu'on coche un certain nombre de cases. Ça, c'est quand même quelque chose qui bouge tout doucement, non ?
Alors, ça bouge tout doucement, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce besoin de se présenter en ces termes et de donner un maximum d'informations pour être sûr que la personne comprenne, perçoive et qu'elle soit en capacité de dire « Ok, je jump on board » ou du coup, non, on sera d'avance et d'office pas compatible. Et ce que je vois, c'est qu'il y a tout un tas de codes des applications de rencontre qui commencent à arriver sur d'autres réseaux comme Instagram et TikTok. Donc on voit aujourd'hui des ados qui, dans leur bio Instagram, mettent leur pronom, mettent polyamoureux, polyamoureuse, mettent relation. Et en fait, c'est aussi une façon aujourd'hui de se définir au même titre que nous on peut avoir l'urgence de mettre la ville où on habite et le travail qu'on fait. Le fait de se dire j'ai besoin que la personne me perçoive tel que moi je me vois et que ça crée d'office une forme de préaccord en se disant en fait c'est mort d'avance, avant même de savoir si t'écoutes Lana Del Rey ou si tu manges du gluten ou pas, ça fait aussi partie des codes qui viennent essentiellement des applications de rencontre et qu'on applique tout simplement à la vie de tous les jours.
Est-ce que c'est le seul risque, et ça sera le mot de la fin très brièvement, Christine Détré, c'est que c'est pas peut-être aussi un peu enfermant ?
Les applis de rencontre.
Le fait de se définir comme ça sur ce qu'on est d'emblée, etc.
Oui, après ça change. Voilà, on peut les identités sont jamais figées, sont jamais fixées et on parle beaucoup en ce moment de binarité de genre qui se dépasse, de fluidité. La fluidité, elle est aussi dans l'identité en général.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Camille Aumont-Carnel, je m'emballe clito sur Instagram. Merci beaucoup Christine Détré et pardon pour votre prénom, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Merci aussi à Loïc Frapsos, Ronan Mahé et Philippe Duclos qui étaient à la technique du téléphone sonne cette semaine. Dans un instant, ce sera les infos de 20h.